Fleuve numéro 1, Flore Laurentienne, une très belle pièce de ce bon musicien qui fait partie de cette exposition Fleuve, l'exposition intitulée Fleuve Saint-Laurent, écho des rivages, pardon, qu'on peut visiter à Pointe-à-Calière, au musée Pointe-à-Calière, jusqu'au 3 mars 2024. Une exposition qui fait parler beaucoup de ces temps-ci. Tous ceux et celles qui l'ont vu sont emballés. Et moi, je suis emballée d'avoir en face de moi celui qui a conçu, en quelque sorte, le chargé de projet Exposition Technologie Multimédia du musée Pointe-à-Calière. Il s'agit de Samuel Moreau. Bonjour, Samuel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en cette journée froide. Vous vous êtes déplacé, vous êtes parti du musée Pointe-à-Calière pour venir ici.
Oui.
Et on est content de vous recevoir. Pourquoi une exposition sur le fleuve Saint-Laurent?
Ça fait quand même longtemps là, que ce projet-là est dans les cartons, là, qu'il y avait une idée faire une exposition sur le fleuve, parce que le Saint-Laurent, ça fait tellement partie de notre histoire. Et surtout à Montréal, Pointe-à-Calière, on est dans le Vieux-Port, on est juste devant le fleuve, mais on oublie que le fleuve est là. On oublie qu'à Montréal, on est une île au milieu du Saint-Laurent.
Pourquoi on oublie ça?
Probablement parce qu'on l'a beaucoup maîtrisé, le fleuve. On l'a beaucoup humanisé, on pourrait dire, là. Donc, on a construit des quais, on l'a endigué, on a mis des ponts, on a mis des canaux. Ce qui fait qu'au final, on n'a plus l'impression que le fleuve est là. On le voit plus, puis le fleuve a plus d'impact sur nous. C'est sûr, si on est à cette île ou si on est en Gaspésie, on le sent, le fleuve.
Parce dans le Bas-Saint-Laurent.
Dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a tellement un impact sur nous parce qu'il est là, il y a sa température, il y a ses marées. Faut prendre le traversier pour aller de l'autre côté. Donc, il y a des contraintes qui nous sont imposées par le fleuve. Donc, le fleuve prend beaucoup de place dans nos vies. Tandis que plus on est à l'ouest, si on veut, du fleuve, plus on le maîtrise, on l'a contrôlé. Puis on a tendance à oublier que le fleuve est là. Puis ce qu'on a remarqué quand on a fait la recherche pour l'exposition, c'est qu'il y a eu une époque où on avait une plus grande connexion avec le fleuve. On allait sur le fleuve, on avait des loisirs sur le fleuve.
C'était la
meilleure façon de naviguer, de se rendre d'une région à l'autre. Aujourd'hui, l'automobile a beaucoup remplacé ça. Mais on voulait un peu, justement, redonner le fleuve aux Montréalais puis à tous les visiteurs de l'exposition. Puis prendre connaissance à quel point le fleuve a été important dans notre histoire, a eu un impact sur notre culture, sur notre langue, sur même notre alimentation.
Est-ce que les gens qui visitent l'exposition vous disent finalement on pensait connaître le fleuve, mais on le connaît pratiquement pas?
Oui, tout à fait. Surtout que les gens qui viennent, en tout cas jusqu'à maintenant, ça fait une semaine que l'exposition est ouverte, les gens s'attendaient pas à ça parce que on a voulu faire vraiment une exposition où on aborde plein de thématiques. Donc, on va vraiment là, dans différents endroits dans l'histoire du fleuve et surtout dans l'histoire humaine du fleuve. Comment, nous, on a eu un lien avec le fleuve Saint-Laurent. Il y a des sujets qui sont vraiment surprenants. Les visiteurs ne s'attendent pas nécessairement qu'on va parler de ces sujets-là.
Par exemple?
Par exemple, sur les dangers sur le fleuve. Le fleuve, on dit que c'est une source de fortune et d'infortune. Donc, oui, on s'attend qu'on va parler du commerce, de la navigation. Mais aussi, le fleuve, il y a eu des épaves. Hein?
Il y a eu des tragédies
sur le fleuve. Il y a eu des guerres aussi sur le fleuve. Donc ça, c'est des éléments qu'on s'attend peut-être pas à voir dans une exposition sur le Saint-Laurent. Donc on a voulu vraiment faire un portrait le plus complet possible. C'est sûr qu'on peut pas parler de tout, mais on explore dans l'exposition là, ce qu'on appelle des haltes. Donc 10 haltes, on aurait pu appeler ça des zones, là, mais on a voulu faire comme un parcours le long du fleuve. On s'arrête à 10 haltes, puis on découvre une thématique qui nous raconte une partie de l'histoire du fleuve, puis ensuite on saute de thème en thème comme ça.
Et Samuel Moreau, l'exposition contient plus de 300 objets. D'où viennent ces objets?
On a une vingtaine de prêteurs pour l'exposition, donc c'est quand même exceptionnel. Des objets qui viennent de partout au Québec, mais surtout là, le prêteur majeur de l'exposition, c'est le Musée maritime du Québec. Ça, c'est situé à Lillet. On a aussi le Musée de la civilisation à Québec qui nous a prêté beaucoup d'objets. Mais c'est ça, au total, une vingtaine de prêteurs. On a des musées, des prêteurs individuels, des institutions qui nous ont prêté des objets. Puis aussi, c'est assez surprenant de voir la diversité d'objets. Bon, quand on parle du fleuve, on s'attend qu'il va y avoir des objets de navigation, évidemment des maquettes de bateaux, des objets reliés au transport. Mais on ne s'attend pas nécessairement à toute la diversité. Donc, les loisirs sur le Saint-Laurent, je parlais des épaves tout à l'heure, on a des objets qui proviennent de 3 épaves qui ont été fouillés par l'archéologie subaquatique. Donc, vraiment, il y a une belle diversité d'objets. C'est vraiment intéressant à découvrir. parce qu'on ne s'attendrait pas là, de voir tous ces objets-là.
Et quelle est la pièce maîtresse de l'exposition, vous diriez?
Ah, c'est toujours difficile à répondre parce qu'il y a plein d'objets vraiment intéressants. Puis je pense que c'est l'ensemble qui fait l'intérêt, mais c'est sûr que les objets d'épave sont particulièrement intéressants. Puis on a un objet qui provient de l'épave du Elizabeth and Mary. Ça, c'était un navire de la flotte de l'amiral Phipps qui a tenté d'attaquer Québec en 1690. Ça vous dit peut-être rien dans l'histoire, mais si je vous dis « je vous répondrai par la bouche de mes canons », ça...
Effectivement.
Hein, tout le monde se rappelle de cette citation-là de Frontenac. Donc, c'est l'amiral Phipps qui est parti de Boston et qui a voulu attaquer Québec, mais il ne s'est jamais rendu parce qu'il y a une tempête sur le Saint-Laurent. Ça montre à quel point le Saint-Laurent est difficile à naviguer et sa flotte s'est échouée dans le fleuve, là, sur la côte nord. Et dans les années 90, on a pu fouiller cette épave-là.
Ah, ouais.
On a trouvé plein d'objets, donc il en a présenté dans l'expo. Et l'objet phare, là, si on veut, c'est un objet qu'on appelle le cœur du Saint-Laurent. Et ça,
c'est une toute petite broche.
Oui, bien en fait, c'est un clin d'œil au cœur de l'océan dans le Titanic. Donc, les archéologues ont voulu faire un clin d'œil là, à cet élément-là. Et c'est une toute petite broche là, qui fait à peu près 3 cm, qui est en argent, qui est en forme de cœur avec une petite couronne. Et ça, c'est un objet qui était dans la tradition écossaise, qui était un gage de mariage. Et là, on peut s'imaginer, on peut tomber dans la légende puis essayer de s'imaginer c'est quoi l'histoire derrière cette broche-là. Est-ce que c'était un soldat qui allait demander sa fiancée en mariage après la guerre, mais qui ça s'est jamais passé?
Est-ce que vous proposez des scénarios ou vous faites rêver les visiteurs?
On fait rêver les gens, ouais, on fait juste expliquer c'est quoi l'objet puis à quoi ça servait, puis on laisse les gens faire leur hypothèse, se raconter leur propre légende par rapport à cet objet-là.
Alors, vous évoquez le Titanic, mais l'Empress of Ireland,
oui.
Excusez la diction, c'est mis de l'avant, là, cette tragédie-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
C'est vraiment une des épaves les plus célèbres au Québec, là, l'Empress of Ireland qui s'est échoué près de Pointe-au-Père, mm-hmm. Ça c'est près de Rimouski, en 1914, à la veille du déclenchement de la Première Guerre mondiale. Donc les médias se sont pas trop intéressés à la tragédie.
Ah parce que Titanic c'est arrivé en 1912.
C'est ça, donc le Titanic s'est passé avant, et là on avait déjà appris du Titanic sur l'Empress, il y avait un système de détection des icebergs. Il y avait suffisamment de canons de sauvetage pour tout le monde, mais malgré tous ces éléments-là...
Il y a eu collision.
Il y a eu collision, une soirée de brume très, très épaisse, puis il y a un navire qui a éperonné, donc les deux navires se sont rentrés un dans l'autre, ça laissait un trou béant, et même s'il y avait plein de systèmes à bord pour prévenir, le trou était tellement grand que le navire a sombré en une quinzaine de minutes seulement.
Ah oui?
Ouais, donc évidemment, il y a eu beaucoup de décès. Là. On dit que ça a été pire que le Titanic, mm-hmm. là, comme tragédie.
Des survivants aussi?
Des survivants aussi, mais très
beaucoup
peu.
De
là, on parle au-dessus de 1000 décès lors de cette tragédie-là. Évidemment, il y a eu, au fil des années, des fouilles subaquatiques sur l'épave et toutes sortes d'objets qui ont été retrouvés. Et un des objets les plus touchants, à mon avis, qu'on présente à l'exposition, c'est le pied d'un piano à queue qui était dans la salle de musique des premières classes. Et ça, c'est vraiment un objet particulier. On ne s'attend pas à voir ça, là. Donc, ça montre un peu c'était quoi la vie à bord. Et que, probablement que personne savait que cette tragédie-là allait se passer. Là.
Beaucoup d'émotions, je pense, que vous faites vivre aux visiteurs de cette exposition qui s'appelle « Fleuve Saint-Laurent, éco-dérivage ». Pourquoi ce titre?
Parce que c'est surtout une histoire des gens du fleuve et pas tant une histoire du fleuve lui-même. Donc, c'est plus une histoire des rives du Saint-Laurent. Et le Saint-Laurent, oui, on raconte l'histoire par des textes, par des objets, mais aussi par les sens, parce que le Saint-Laurent, c'est un vécu, hein, c'est des souvenirs. Donc, c'est important pour nous d'avoir des témoignages dans l'exposition, d'avoir des ambiances visuelles. Donc, on a des grandes projections d'ambiances, des ambiances sonores. On a même des ambiances olfactives dans l'exposition.
Ah oui? Qu'on respire? Qu'on sent?
Donc, on a travaillé là, avec un concepteur qui nous a créé des odeurs. L'idée, c'était pas que ça sente le varech ou le poisson mort. Là. L'idée, c'était d'éveiller les sens. Donc, on a travaillé avec des odeurs comme quand on parle des chantiers de construction de navires, donc le boissier, le bois mouillé, ou quand on est sur la section sur la pêche, là, on est dans des odeurs de rivage avec la roche mouillée, l'air salin, les plantes de rivage.
Et ça fonctionne?
Ça fonctionne, c'est ça. Donc, ça...
Les odeurs sont proches de la réalité?
Ben en fait, c'est l'idée, c'était pas que ça sente vraiment, comme je vous disais, le poisson, là. L'idée, c'est d'éveiller les souvenirs. Donc, l'odeur nous arrive, on a l'ambiance sonore, on a la grande projection, puis l'ensemble fait que il y a un vécu qui est transmis, il y a une émotion, il y a une nostalgie. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, l'écho-dérivage, c'est ça. Donc, c'est une histoire qui nous est amenée par nos différents sens, comme un écho là, qui se répercute par rapport à l'histoire des riverains du Saint-Laurent.
Est-ce que vous offrez la chance aux visiteurs de faire une visite guidée?
Il y a des capsules de visite qui sont offertes. Donc, si ça vous intéresse, là, j'invite les gens à s'informer à l'accueil là, pour avoir l'horaire des capsules de visite. Donc, c'est possible là, d'avoir un guide là, qui va offrir cette capsule-là. Sinon, il y a toujours des guides en salle pour répondre aux questions.
Et est-ce que... j'ai lu qu'il y avait des conférences. Mm-hmm. Il va y avoir deux conférences
en
parallèle à l'exposition?
Exactement. Donc, il va y avoir une première conférence sur les épaves, justement, sur les différentes épaves qui sont traitées dans l'exposition. Et on va avoir une autre conférence vraiment sur le côté environnemental parce qu'on n'a pas exclu ce côté-là. Même si c'est une exposition historique, mm-hmm. On parle de notre rapport au fleuve, comment le fleuve nous a influencés, mais comment nous, maintenant, on a influencé le fleuve? Puis pas toujours de la bonne façon.
Hein. Ouais.
Donc, on a voulu aussi traiter de ces éléments-là, des enjeux environnementaux, puis de qu'est-ce qu'il va falloir faire dans le futur pour préserver notre Saint-Laurent. Donc, on va avoir aussi une conférence à ce sujet-là.
Alors, le fleuve et ses épaves, ça se passe le dimanche en fin de semaine?
C'est en fin de semaine.
10 décembre, mmh. À compter de 13 heures, puis à la découverte du majestueux fleuve Saint-Laurent, le dimanche 28 janvier à 13 heures. Est-ce qu'il faut s'inscrire?
Oui, c'est ça, il faut s'inscrire. Là. Donc, si les gens, ça les intéresse, je les invite à communiquer avec Pointe-à-Calière parce que ça se remplit très vite.
Ouais.
Nos conférences sont très populaires, là, donc informez-vous là, pour savoir s'il y a des places.
Et pendant le temps des fêtes, vous allez offrir aussi des ateliers de création en lien avec l'exposition sur le fleuve?
Oui, c'est ça, on a une belle programmation famille. Là, donc, on peut penser, là, nos expositions sont grand public, mais sont aussi très adaptées pour les familles. Donc, on invite les gens là, à consulter notre site web là, s'ils veulent avoir plus d'informations sur les différentes activités qu'on offre. On a aussi, on offre un carnet famille. Donc, à l'entrée de l'exposition, il y a un petit livret très coloré, très attrayant pour les jeunes. Puis là, les parents ou les grands-parents mm-hmm. peuvent faire le parcours de l'exposition. Puis là, il y a des questions qui amène les jeunes à découvrir les interactifs, à lire les textes, puis essayer de trouver les réponses dans l'exposition. Donc, ça fait une visite plus ludique là, au musée.
Jusqu'à maintenant, mais ça vient d'à peine de commencer, là, mais est-ce que vous sentez l'engouement, l'attrait pour cette exposition?
Oui, on le sent. Là. Je pense que le Saint-Laurent, c'est quelque chose qui est près de nous, même si, comme je le disais d'entrée de jeu, on a un peu oublié là, que le Saint-Laurent est là. Puis ce qui est vraiment commun là, jusqu'à date avec les commentaires, c'est que les gens ne s'attendaient pas à ça. Ils ne s'attendaient pas à toute la diversité de thèmes, à la diversité aussi des dispositifs là, qu'on a utilisés dans l'exposition. On a une belle finale multimédia. Là. Je veux pas trop dire qu'est-ce qu'il y a dans cette finale-là.
On a entendu un petit extrait avec Flore
Laurentienne. On a Flore Laurentienne là, qui est utilisée comme trame sonore dans cette finale-là. Puis ça permet d'avoir vraiment une vision complètement onirique du Saint-Laurent. Là. Donc, j'en dis pas plus. Là. Les gens pourront découvrir.
En espérant au moins que ça aide les Montréalais à se rapprocher davantage du fleuve Saint-Laurent. Parce que, comme on le disait tantôt, vous l'évoquiez, je pense, la Gaspésie, les îles de la Madeleine, Kamouraska, Charlevoix, Les gens baignent pratiquement dans le fleuve Saint-Laurent.
C'est ça. Tandis que les Montréalais, bon, c'est ça. Il faut se reconnecter un peu au fleuve. Puis peut-être qu'après avoir connu toute cette histoire-là, puis voir à quel point le Saint-Laurent est vraiment présent dans notre histoire, on va peut-être avoir envie un peu plus de le préserver, mm-hmm. de vouloir y avoir accès, de vouloir pratiquer des loisirs sur le fleuve.
Oui, parce qu'il y en a beaucoup de poissons. Il faut, on prend conscience aussi de la vie maritime, ce qui se passe dans le fleuve. C'est un des plus grands fleuves du Canada?
Oui, donc c'est le troisième plus long fleuve d'Amérique.
Puis dans
l'exposition, oui, on parle du fleuve, mais on traite aussi de tout le bassin versant. Donc, si on compte les grands lacs, le Saguenay, donc tout ce qui se jette dans le fleuve Saint-Laurent, là, on parle du quart des réserves d'eau douce de la planète. C'est immense.
Je comprends.
Et il y a 20 millions de personnes qui vivent dans ce bassin versant-là parce que Toronto est là, il y a des villes américaines qui sont dans ce bassin versant-là. Et tous ces gens-là ont un impact sur l'environnement de ce majestueux fleuve-là. Donc, ça montre encore plus à quel point c'est important d'y faire attention.
Et c'est un des fleuves les plus difficiles à naviguer.
Ben oui, encore aujourd'hui, ça c'est vraiment une particularité dans le monde, là, c'est très rare. Tous les navires transatlantiques qui arrivent dans le fleuve doivent s'arrêter aux Escoumins, ça c'est sur la côte nord, et il doit y avoir un pilote canadien qui doit monter à bord pour naviguer le navire jusqu'à sa destination, par exemple Montréal. Et ça, c'est vraiment particulier et c'est là parce que le fleuve est difficile à naviguer. On veut éviter tout risque de collision ou de naufrage. Il y a présentement plus de 110 épaves dans le Saint-Laurent. On ne voudrait pas qu'il y en ait plus. Donc maintenant, là, tous les navires, c'est obligatoire, doivent s'arrêter, faire monter un pilote canadien qui est formé pour naviguer le fleuve. Malgré toutes les aides à la navigation, les phares, les feux de positionnement, les cartes maritimes, malgré tout ça, là, ça reste un fleuve qui a beaucoup de dangers encore. Là. Donc ça, c'est vraiment une particularité intéressante du fleuve Saint-Laurent.
Est-ce qu'on entend des cornes de brume?
Oui, bien sûr.
Ah,
donc,
j'adore!
Dans les ambiances sonores, là, on a différentes ambiances sonores tout le long de l'exposition. Donc on varie un peu là, ces ambiances-là pour avoir différentes perceptions du fleuve. Évidemment, la corne de brume, ça fait partie de l'univers auditif du Saint-Laurent.
Alors, j'invite tout le monde à visiter Fleuve Saint-Laurent, éco-dérivage, une exposition qui est en cours au musée Pointe-à-Calière. Et j'en parlais avec Samuel Moreau, chargé de projet exposition technologie multimédia du musée Pointe-à-Calière. Vous êtes une équipe de combien qui avait mis sur pied cette exposition-là?
Il y a vraiment beaucoup de monde qui travaille sur une exposition comme ça. Nous, à l'interne, c'est quand même pas des très grandes équipes, mais on travaille beaucoup avec des fournisseurs externes. J'ai pas compté, mais c'est plus d'une centaine de personnes qui travaillent de la recherche, le design, la réalisation, puis évidemment la fabrication, l'installation de tout ça.
Et si on va avoir des billets, on passe par votre site?
Vous pouvez, oui, aller sur le site web de Pointe-à-Calière ou vous pouvez les acheter sur place, là, sans problème.
Merci beaucoup, Samuel Moreau.
Merci beaucoup.